Bienvenue à cette table ronde sur Doris Lessing, en compagnie de Catherine Dufour, Jeanne Debat, Mathias Echenet, Jeanne de Batz, pardon, et Xavier Mauméjean. Donc, Xavier Mauméjean. Donc, Catherine est auteure et j'ai noté ingénieur en informatique. Voilà. Mathias Echenet est le directeur éditorial, je ne sais pas comment on dit, des éditions La Volte. Voilà, c'est le patron des éditions La Volte. Jeanne est professeur de... Je ne sais pas de quoi tu es professeur.
Latin, français, grec.
D'accord. Autrice de
J'aime
SF.
J'aime bien autrice.
Autrice de SF.
J'aime bien autrice, ouais.
Et accessoirement, directrice artistique du Festival des Utopiales.
Alors voilà, tout le reste est accessoire en ce moment, sauf le dernier, en fait.
Donc c'est à toi que l'on doit cette table ronde sur Doris Lessing.
Ah non, c'est à Mathias.
Ah bon.
Qui a réédité chez Casta et qui m'a proposé le sujet.
D'accord. Et Xavier Mauméjean, qui est professeur de philosophie et pas autrice, il est auteur, lui. Voilà, il est auteur, romancier. Donc on va commencer. Le débat s'appelle Doris Lessing, libre écrivain. Alors c'est peut-être toi qui as choisi ce titre, Jeanne.
Oui, parce que nous avions un souci à propos de auteur-autrice. Et donc voilà, moi je tiens pour autrice, parce que c'est l'ancien mot qu'a supprimé Richelieu. Et les copines étaient plutôt auteurs, c'est ce qui se fait habituellement, mais auteurs, on n'entend pas le « e », en fait. Donc voilà, j'ai décidé de tricher un peu. Et puis elle était vraiment libre comme fille.
D'accord. Donc on peut résumer très brièvement la bio de Doris Lessing, qui est née en 1919 et morte en 2013. Qui a écrit plusieurs chefs-d'œuvre. On peut citer Le Carnet d'or français, The Golden Notebook, Les Enfants de la Violence. Je sais que Mathias, tu aimes Mara et Dan, par exemple, tu m'as parlé de celui-là. Et évidemment, le livre qui nous intéresse, puisque Mathias le réédite, s'appelle Shikasta. Et il fait partie d'une série qui s'appelle Canopus in Argo. Canopée dans Argo, c'est traduit comme ça en français?
Canopus dans Argo.
Canopus dans Argo, voilà. Et Doris Lessing est donc un des rares auteurs de science-fiction, autrice de science-fiction, qui a eu le prix Nobel en 2009 ou 2006, 2007. Voilà. Donc, on va peut-être commencer à parler de Shikasta. Mathias, pourquoi as-tu décidé, comment déjà as-tu découvert l'auteur, l'autrice, et pourquoi as-tu décidé de... Oui. De rééditer ce livre.
Moi, c'est un hasard. Donc Doris Lessing, le nom est familier, je suppose, pour beaucoup de gens. Et certains connaissent très bien l'auteur. Et moi, l'œuvre de l'auteur. Et moi, j'ai pendant des années fait semblant de connaître l'auteur. Et je me suis aperçu que j'avais rien lu d'elle. Quelqu'un, en l'occurrence Sébastien Guillaume, m'a dit « Y a Shikasta ». Qui existe, et une série, c'est même, ça constitue une série dont une grande partie n'a jamais été traduite et éditée en France, de Doris Lessing. C'est de la SF, c'est excellent, voilà, tu verras. Donc j'ai commencé par Shikasta, moi, voilà. Après, j'en ai lu d'autres, du coup, et on pourra parler du reste, et de en quoi c'est de la science-fiction, ou en quoi c'est de la littérature. Enfin, ça peut être une question, mais pas nécessairement la plus importante. Nous, à La Volte, ce qu'on publie, ce sont des livres de littérature. Parfois, on met dans des rayons de science-fiction, parfois dans des rayons littérature. Ce sont des étiquettes. Là, on essaye de le mettre en rayon littérature. Si ça n'avait pas été Doris Lessing, on l'aurait classé immédiatement dans le rayon science-fiction. Et voilà, c'est une grande... C'est pas une saga, mais c'est une histoire sur des millénaires et des millénaires. Donc ça, c'est Canopus dans Argo. Donc cinq livres qui se lisent séparément mais qui forment un tout, hein, avec des échos, mais ça se suit pas chronologiquement, et c'est Canopus dans Argo, c'est une civilisation qui est très 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 avancée et qui raconte une histoire d'une terre qui s'appelle Shikasta, qui est la terre, et ça raconte la terre des millénaires avant et puis quelques centaines d'années après. Et dans d'autres romans, on revient un peu à Shikasta, mais on va aussi sur d'autres planètes. Voilà, pour faire très bref.
Alors, il y a une préface dans le roman de Lessing elle-même qui explique que son ambition, c'était de, d'écrire une sorte de, d'Ancien Testament de science-fiction, quoi. D'où, le, d'où l'échelle temporelle et tout ça. Et elle, justement, on va essayer de parler un peu du genre, elle, elle dit qu'elle écrit, alors elle, elle appelle ça space fiction, et puis aussi elle dit qu'elle écrit vraiment de la science-fiction. Elle ne se cache pas derrière son petit doigt en disant, voilà, j'écris de je ne sais pas, enfin, il y a beaucoup d'auteurs qui font ça, et pas elle.
Oui, elle dit carrément que pour illustrer son propos, pour le structurer, il n'y avait que la science-fiction qui avait les outils nécessaires. Et elle, qu'elle s'en est servie aussi bien qu'elle pouvait, puisque ce n'était pas son genre de travail à la base. Voilà.
Est-ce que l'un d'entre vous sait si Lessing avait vraiment une culture de la science-fiction ? Est-ce qu'elle... Je sais qu'elle avait... J'ai lu au hasard d'un article qu'elle avait adoré la musique du sang de Greg Bear, par exemple. Et qu'elle...
A priori, c'était une lectrice, oui.
Ouais.
Oui. Lorsqu'elle s'est plus ou moins écharpée avec Le Guin, elle se sont envoyées des auteurs à la tête. Donc, a priori, elle les avait lus.
D'accord. Justement, alors, restons sur la question du genre. Et j'ai lu, alors peut-être que vous l'avez lu aussi, une critique de Le Guin qui est... disponible, c'est sur le site du Guardian, je crois, qui date de 1979.
Oui, autant moi d'un doute, là, parce que depuis toujours, je dis Le Guin, mais c'est Le Guin qu'on dit ?
Je sais pas.
Je sais pas, on peut voter, mais...
Je sais pas.
Bon.
Je sais pas.
Ça doit se dire Le Guin.
J'imagine qu'en anglais, on dit Le Guin, mais bon, j'en sais rien.
Allez. Donc, moi, j'ai pas vu la... Bon, d'abord, grand auteur, qu'on considère comme étant de la science-fiction, donc Ursula Le Guin, on va dire, aujourd'hui. Et effectivement, moi, je n'ai pas suivi, mais il y a eu toute une... Donc là, c'est assez drôle, ouais. Si tu peux en lire des extraits ou parler. Il y a eu une polémique entre elles deux.
Alors, donc, dans sa critique, par exemple, il y a un truc qui est bien. Elle dit que... Elle, en préambule, elle dit qu'elle va critiquer le texte pour ce qu'il est, c'est de la SF. Car la SF a perdu trop de temps à s'excuser auprès des prétentieux et à s'expliquer aux ignorants qui ne font pas d'efforts. J'ai trouvé la formule assez jolie, quoi. Elle dit aussi que à certains moments le texte est sublime, mais à certains moments, donc il est parfois allégorique à la C.S. Lewis, donc ça c'est plutôt un compliment. Mais par contre, elle dit qu'il y a parfois des passages inspirés par Eric von Däniken, donc le mec qui prétendait que des grands anciens extraterrestres étaient venus sur Terre pour créer la civilisation. Donc quelque part, elle se fout un peu de sa gueule carrément et lui dit qu'elle adhère à des théories fumeuses, quoi. Mais Qu'est-ce que vous pensez de ces critiques ? Catherine,
on t'en parle. Juste pour dire que dans l'histoire, c'est effectivement, on commence, mais on ne va pas spoiler, mais effectivement, du coup, on est sur une histoire d'une terre qui s'appelle Shikasta, qui est d'abord peuplée, colonisée même par cette civilisation Canopus. Donc ils implantent des gens qui sont des géants et qui peuvent vivre des millénaires. Enfin voilà, donc il y a toute une création de mythologie donc sur avant ce que nous connaissons comme étant des êtres humains. Vous voulez dire quelque chose ?
Ah oui, non, je voulais dire que Doris Lessing fait effectivement partie des auteurs chouchous des écrivains de science-fiction parce que c'est un des premiers grands auteurs. Moi je dis pas autrice, je dis auteureux. C'est un peu ridicule. Donc c'est un des grands auteurs reconnus, nobilisés, à avoir dit que la science-fiction n'était pas une littérature pour boutonneux, mais au contraire, une littérature porteuse d'avenir. C'est pour ça qu'on adore Doris Lessing. Et effectivement, elle a commencé une œuvre, on va dire, assez concrète et terre-à-terre, avec des romans très, on va dire, d'analyse psychologique, pour faire très court, et après, elle s'est avancée dans des terres un peu inexplorées, où il y a effectivement pas mal de... Comment est-ce que je vais dire ça ? Alors non, c'est pas des extraterrestres, mais enfin, c'est des questionnements beaucoup plus spirituels. Et ça ressort dans Shikasta, mais Kim Staley Robinson a fait exactement la même chose, par exemple, dans les chroniques des années noires, et personne n'a dit que c'était des thèses fumeuses.
Je pense que le coup des géants, en fait, renvoie à l'époque où Le Guin s'énerve, ça renvoie tellement à des fumées nazies, hein, parce que les grands anciens, tout ça, les grands efforts, etc., c'est clairement ce... Comment dire ? Ça pourrait être clairement ce mouvement-là. Or, je pense que c'est une mauvaise lecture de Doris Lessing, qu'elle avait autre chose en tête. De toute façon, dans l'histoire, les géants ne sont pas les ancêtres de l'humanité, ce sont des protecteurs que cette civilisation tellement élevée, tellement forte, mais là pour guider les primates pourris que nous sommes à ce moment-là vers l'évolution, vers quelque chose de meilleur. Et ces géants tombent. Ils tombent parce qu'une autre civilisation antagoniste, dont on ne sait pas exactement si elle est... la notion de mal, en fait, n'est pas évidente du tout là. C'est juste que c'est ceux d'en face. Et comme souvent ceux d'en face veulent la même chose que ceux que nous suivons, effectivement, ils sont du mauvais côté. Donc, ceux d'en face viennent et pourrissent tout. Les géants pourrissent en même temps que le reste. Et toute l'histoire de la planète Terre va suivre ce pourrissement à travers les yeux d'un observateur. Donc, je pense que là, le gain fait un mauvais procès à Lessing. Et là, je ne vois pas trop par quelle piste on peut aller pour comprendre comment l'immense intelligence de Le Guin a pu se fourvoyer par là, à part la mauvaise foi.
Alors, oui, non, oui. Enfin, c'est d'une mauvaise foi crasse, parce que le coup de voir que dans l'Antiquité, il y avait la race humaine, et puis des géants, et puis une toute petite race, on retrouve ça dans absolument tous les mythes et légendes, dans tous les contes de fées. Quel que soit le pays, vous avez une race de géants et vous avez une race de lutins. Voilà, c'est vraiment le white cauldron, le chaudron blanc dans lequel chacun puise sa connaissance, quelle qui a été mise au point par Tolkien, qui lui-même s'en est servi, puisque dans la Terre du Milieu, vous avez les hobbits et puis vous avez les elfes, quoi qu'en disent les films que vous avez sûrement tous vus. Les elfes sont des êtres beaucoup, beaucoup plus grands que les êtres humains et que, bien sûr, les hobbits. Donc là, Doris Lessing a véritablement puisé dans un fond mythique commun, en tout cas, à tout ce qui est indo-européen, si c'est pas... Je sais pas carrément, enfin, j'ai pas en tête des mythes et légendes d'Amérique du Sud, par exemple, mais ça m'étonnerait absolument pas qu'on y retrouve justement ces géants et ces petits peuples. Donc c'est très bizarre, effectivement, que Le Guin, on ait déduit que ça parlait d'Hitler, quoi. Ça fait un peu projection.
Ah, y a peut-être aussi, je connais pas la polémique Lessing-Le Guin, mais je connais un peu Lessing. Et tout simplement, peut-être que Le Guin ignore tout un pan de la vie de Lessing qu'elle rend dans un petit livre en taille, mais qui est très éclairant sur elle, qui est « Filles impertinentes », les filles impertinentes étant elle et sa mère. Les parents de Doris Lessing sont des purs produits de la culture victorienne et édouardienne. Le père a été blessé pendant la Première Guerre mondiale. La mère est infirmière, c'est une icône britannique, donc ce sont des géants de l'Empire. Ils incarnent vraiment parce que je retrouve des choses assez intéressantes sur la vie de Doris Lessing. Ils représentent l'Empire britannique. Ils vont partir en Afrique, donc dans une autre terre, une autre planète à l'époque, et eux qui jouissaient d'une vie facile, d'une vie aisée, mais d'une vie sans surprise, avec un horizon terne, vont se retrouver faméliques, crevant de faim, entourés d'une population noire qu'ils méprisent dans un premier temps, je parle des parents, et qui ensuite vont les fasciner, notamment le père. Et ce qui est intéressant, c'est que Doris Lessing enfant, a connu le dépaysement radical, l'adéquat d'une autre culture et l'effondrement des géants victoriens, puisqu'il n'était pas question de remonter des pendules ou de mettre des napperons dans leur gourbi d'Afrique du Sud, parce qu'ils ont vraiment connu la misère. Et je me disais aussi peut-être que tout simplement Le Guin est passé à côté de l'argument biographique.
Oui, et puis en plus on retrouve ça dans Les Enfants de la Violence très clairement, qui est au moins le départ des Enfants de la Violence, c'est Martha Quest, une jeune fille qui vit chez ses parents, effectivement, des victoriens exilés, qui ont tout raté. Le père est tellement raté qu'il ne sait même pas faire cuire un œuf. Enfin, tout ce qu'il entreprend, sa foire. Et Martha, elle, elle rencontre l'Afrique, elle rencontre les voisins noirs avec beaucoup plus de facilité que ses voisins néerlandais, qui, eux, transportent exactement la même idéologie raciste que, il n'y a pas d'autre mot, hein, que les parents avaient amené avec elle. Avec eux, pardon. On voit ça. Et à un moment, Martha Quest, comme Doris Lessing, va rencontrer le Parti communiste. Et donc, va rencontrer le discours de décolonisation. Donc, on ne peut vraiment pas, à partir de là, se dire que Lessing est en train de nous faire un délire sur la race aryenne, comme le sous-entend très vaguement Le Guin.
Ah non, pas vraiment, non. Non, non. Par contre, il y a quelqu'un... moi, ce qui me fait rire entre Shikasta et, par exemple, le Carnet d'or, donc il y a quand même pas mal d'années entre les deux bouquins, puis il y a une transposition. C'est que Doris Lessing, ce qui quand même la motive beaucoup, c'est globalement, je dirais pas la détestation de ce qu'elle est, mais la détestation de ce dont elle vient. C'est-à-dire globalement les Britanniques, mais tendance Oxford, quoi. Les colons. Et elle les décrit dans le Carnet d'or comme une bande de rigolos qui sont d'un cynisme sans fond et on peut rien faire avec parce qu'ils sont à peu près foncièrement et fondamentalement égoïstes, égocentriques, méchants. Et ça, et voilà. Donc elle voit ça comme une forme de corruption et on peut vraiment rien faire avec. Et même quand ils essayent d'être communistes, la seule chose qu'ils arrivent à être, c'est des écrivains ratés. Et dans Shikasta, on voit ça projeté, c'est-à-dire qu'il y a des planètes harmonieuses. Et qu'est-ce qui fait cette harmonie? C'est une espèce de vibration qu'elle a, qui s'appelle substance absolue de la fraternité. Bref, c'est la fraternité. Et qu'est-ce que c'est que la dégénérescence? C'est devenir individualiste et donc, par là même, devenir cynique. Et il y a une tirade, notamment la description de l'Angleterre vue par un extraterrestre qui suit ça de loin, si j'arrive à vous la retrouver. Elle est absolument excellente. Voilà. Donc vous avez un extraterrestre qui se rend dans une ville de Shikasta en se disant « mon Dieu, c'est de là que vient de la corruption ». Donc, il s'agit d'une région qui n'a jamais été attrayante. Située à basse altitude, elle est marécageuse. Le sol est toujours détrempé, le climat débilitant. C'est la principale ville d'une petite île qui a, grâce à sa nature belliqueuse et avide, envahi et soumis une bonne partie du globe. Voilà. Et alors là, vous en avez sur l'Angleterre pendant des pages et des pages où elle casse tout ce qui est britannique à tendance oxfordo-colonialiste. Alors là, effectivement, on peut dire qu'elle a un vrai blocage psychologique. J'ai l'impression que toute son œuvre, c'est mettre en scène cette détestation absolue du colon anglais.
Alors, Doris Lessing trouve des qualités quand même au déterminisme, à la volonté des colons anglais, notamment sa mère. La mère de Doris Lessing, c'est Doris Lessing qui s'est trompée. C'est quelqu'un d'extrêmement libre, mais qui sert de fausses valeurs. Et ce qui est intéressant, c'est que Doris Lessing, en fait, je pense, mais je me trompe peut-être, n'aime pas n'importe quel dogmatisme, y compris le féminisme. Dans le Carnet d'or, Doris Lessing a deux phrases qui sont vraiment les extrêmes de son comportement. Il y a une phrase qui dit « nous sommes pas mariés pour donner des pères à nos enfants ». Donc là, on la retrouve féministe, etc. Et toujours dans le Carnet d'or, elle dit « Deux femmes qui sont unies exclusivement par la haine des hommes sont des lesbiennes, sinon physiologiquement, du moins psychologiquement. » Et je pense que ce que Doris Lessing déteste, c'est le fait d'être imbu de soi, de penser être arrivé, d'être figé, de ne pas partir ailleurs, de ne pas se remettre en cause. C'est un dogmatisme qu'elle s'applique à elle-même. Sachant qu'elle, par contre, elle a osé envoyer tout valser, donc son mariage et ses enfants, pour écrire. Il y a une volonté d'être toujours inquiète, une inquiétude positive, me semble-t-il.
Non, on ne commence pas tout de suite, on fera après sur le féminisme.
Mais de toute façon, le truc sur le féminisme, ce n'est pas totalement de sa faute, Lessing, là, si je suis énervée. Dans le sens où, effectivement, elle a refusé l'étiquette, ce qui était absolument son droit. Non, ce qui m'énerve, pardon, Xavier, c'est la récurrence de l'annonce qui est faite dès qu'on parle de Doris Lessing, ça doit être la deuxième ou la troisième chose qu'on dit à propos d'elle, c'est qu'elle refusait d'être féministe. Et je trouve ça super louche, cette insistance à vouloir le marteler, alors que, au fond, même si elle refuse l'étiquette, toute sa vie, tous ses livres, tout ce qu'elle a déclaré, parle de la liberté des femmes. Elle veut juste pas être un porte-parole, ça c'est clair. Elle veut pas être un gourou, c'est évident. Mais c'est pas une femme qui refuse l'idée que le combat est à mener. Elle a peut-être pensé sur la fin qu'on avait tout gagné, mais maintenant on sait que non. Voilà.
Elle a quand même dit, Jeanne, si tu permets, elle a quand même dit, après avoir fait une révolution, beaucoup de femmes se sont fourvoyées, n'ont en fait rien compris, par dogmatisme, par absence d'analyse historique, par renoncement à la pensée, par manque dramatique d'humour.
Ah ouais, mais alors, ça, c'était après 80 ans, ça compte pas.
Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure. J'allais pas dire gâtisme, mais ouais. Voilà, même Doris Lessing, elle a le droit de fatiguer sur la fin.
Colette, c'est pareil, hein, mais c'est l'âge. C'est...
Mais je crois que c'est compatible, tout simplement. Elle est féministe, oui, mais ah. Elle est féministe comme elle est anglaise, mais elle n'est pas dans la fausse assurance, dans le dogmatisme. Elle refuse un dogmatisme communiste, toujours dans le carnet d'or. Elle refuse un dogmatisme féministe. Elle refuse tout type de dogmatisme. En sens, c'est le libre écrivain.
Mais c'est vrai que sur la liberté, c'est vrai que c'est impressionnant. Bon, moi, j'avais plutôt l'image de Doris Lessing féministe. Hein. Donc, j'avais pas entendu parler de la de l'antiféministe. C'était pour moi une féministe, c'était accolé. Vous savez, on répète bêtement des choses sans savoir. On dit Doris Lessing, prix Nobel, féministe, voilà, ça s'arrêtait là. Et quand j'ai lu donc la série Canopus et puis d'autres livres, c'est vrai que c'est beaucoup... c'est d'abord des personnages de femmes très forts, beaucoup d'adolescentes, puisque tu parlais de Martha Quest, les enfants de la violence, donc c'est un cycle très important et qui est certainement la vie de Doris Lessing au début. Et ça commence par l'adolescence et elle a souvent des personnages d'adolescentes. Notamment là aussi dans Shikasta, il y a un journal d'adolescentes qui intervient. Et donc c'est la transformation. C'est effectivement lutter contre les dogmes, les carcans, etc. Et ça revient énormément. Donc, c'est une liberté très forte, mais c'est une liberté pour l'être humain, pour la femme. Et elle a des textes sur la femme, du coup, que j'ai découvert après tout le monde. Mais dans le carnet d'or, elle est d'une liberté sur la sexualité de la femme, sur ses besoins, sur plein de choses. Voilà, c'est très impressionnant. Ça... Après, féministe, pas féministe, moi j'en sais rien, mais enfin, féministe nécessairement, puisque c'est la liberté de la femme, c'est la liberté de l'homme également, c'est la liberté des rapports hommes-femmes. Voilà.
Alors, mais pardon, excuse-moi.
Non, je voulais dire juste sur les jeunes, elle disait les jeunes ont souvent des moments de lucidité qui, avec l'âge, se font plus rares.
Là-dessus, je voulais dire qu'on n'allait pas se mettre à distribuer des brevets de féminisme. Hein. Ou alors, on va tomber dans le dogme dénoncé par Lessing. Je pense que tout ce qu'elle a écrit va dans le sens du féminisme, va dans le combat du féminisme. L'étiquette est refusée. C'est bon. Et c'est sûrement un des points d'achoppement qu'elle a eu avec Le Guin. Ça. Pour ne pas porter peut-être le combat entre elles deux sur ce terrain-là, Le Guin a pu prendre des chemins détournés. C'est mon hypothèse.
Alors, moi, je pense que Le Guin, elle a... Maintenant, je dis Le Guin, par votre faute, mais bon. Ou grâce à vous. Toujours dans la même critique, elle lui reprochait de trouver aucune qualité à l'humain et que dans Shikasta, voilà, c'était toujours ces espèces d'itty paternaliste qui... Le bien venait d'eux. Et elle trouvait rien de bien chez les humains. Pour elle, il y avait une haine de soi. Je cite, hein, une haine de soi, une haine du féminin, de l'occidental, de l'humain. Tout ce qui est bien vient d'ailleurs, et le mal est humain. Alors il y a quand même ce pessimisme dans
le livre. Alors, ouais. D'abord, bon, il y a les autres, mais pour parler de Shikasta sans raconter l'histoire, ce qui est compliqué. Cela dit, l'histoire elle-même est tellement vaste qu'on peut pas le faire en 5 minutes. Il y a des passages. Enfin, donc partant de plusieurs millénaires avant notre siècle, ça nous amène à voir tout ce que les hommes ont perdu Et c'est, y a vraiment des passages, et c'est d'ailleurs ce que j'aime aussi parfois dans la science-fiction, c'est ça, on regarde nous-mêmes et on se dit mais qu'est-ce qu'on est con et qu'est-ce que, enfin, il y a vraiment des passages où on voit l'autodestruction en marche de la Terre, de la société de consommation, de tout ça. Et moi, ça me met dans des rages, mais enfin, en même temps, ça, voilà, ça m'émeut, ça me touche. Effectivement, il y a quand même sur Shikasta, pas sur la fin, où il y a quand même une ouverture minime. C'est quand même assez. On voit une race autodestructrice, pas seulement par les qualités humaines, c'est par la civilisation rivale de Canopus. Hein, c'est qui, on ne sait pas si c'est le mal, mais c'est une influence destructrice. Mais effectivement, il y a ce côté, ben voilà, ce qu'on est par rapport à ce qu'on aurait pu être et où on va, c'est un instant, il y a des moments assez, assez forts. Bon, après, en réalité, sur la fin, c'est relatif comme ouverture, c'est que, vu par l'émissaire de Canopus, je vous dis, cette civilisation tellement avancée qu'on ne décrit jamais, hein, dont l'émissaire principal qui envoie ses rapports sur la planète Shikasta, l'émissaire principal a des milliers d'années, tout ça, la vie humaine est tellement relative que de toute manière il attend non pas la fin de la race humaine, hein, d'ailleurs on prédit pas la fin de la race humaine, mais on prévoit un nouveau cycle, que la civilisation concurrente va elle aussi chuter, que les humains vont entamer un autre cycle. Donc c'est pas totalement déprimant, c'est juste que ça prend quelques millénaires.
On peut, tu voulais dire?
Oui, juste, je voulais rebondir sur les jolis mots à l'égard de la jeunesse. Un des grands livres de Doris Lessing, c'est Les Grands-Mères, où deux femmes, 40-50 ans, vont entamer chacune une liaison avec le fils de l'autre. Et donc c'est pour ça, là bon, c'est vrai, le mot était joli sur la jeunesse, mais il n'y a jamais rien d'arrêté chez Doris Lessing. C'est vrai qu'il n'y a pas de dogmatisme, il n'y a pas de féminisme qui serait achevé et content de lui, il n'y a pas de communisme qui serait arrivé le grand soir, ça y est, c'est bon, il n'y a pas les jeunes, il y a l'espoir dans les jeunes, non, elle est toujours en train de se remettre en question, et c'est en ce sens-là qu'elle me semble intéressante. Et juste une petite chose, parce que hélas, j'ai pas lu le roman, mais il y a aussi l'effet feedback, l'effet retour. Par exemple, Christopher Priest, chacun ici connaît la valeur de cet auteur de science-fiction, est admirateur du Carnet d'Or aussi. Hein. C'est-à-dire que même son écriture de littérature générale, pour faire simple, est une influence de la science-fiction. C'est-à-dire qu'elle n'est pas simplement auteure de science-fiction quand elle se pose et revendique comme telle, elle influence aussi la science-fiction, et pas des moindres.
Est-ce qu'on peut parler de la structure propre de Shikasta, qui est assez intéressante? C'est une espèce de fix-up où il y a des nouvelles, donc tu disais, il y a des rapports d'émissaires, il y a un procédé vraiment de science-fiction.
Moi, c'est ce que j'aime bien personnellement. Et donc, mais on retrouve d'ailleurs une construction pas similaire, mais dans le Carnet d'Or, où il y a trois carnets, et c'est pas du tout de la science-fiction, le Carnet d'Or. Mais effectivement, ce sont des rapports d'émissaires, des fois courts, des fois longs, des fois d'émissaires concurrents. Il y a des lettres d'amour. Il y a un journal donc d'une adolescente qu'on retrouve, que je trouve d'ailleurs vraiment bien à ce moment-là. Il y a donc voilà, c'est une sorte de collage avec une ampleur absolument incroyable. Parfois, il y a même des extraits de livres historiques avec les vous savez toutes les références qui suivent le texte de cette planète Canopus, enfin de cette civilisation Canopus extrêmement avancée. Donc il y a vraiment un jeu d'écriture évidemment très fort qui se renvoie, qui parfois complexifie le récit. Moi, j'aime bien quand il y a le récit qui se mérite un peu. C'est complexe et en même temps assez linéaire.
Bah, compte tenu du projet qui est de décrire une civilisation plusieurs fois millénaire, enfin une aventure plusieurs fois millénaire, je ne vois pas comment on aurait pu avoir un récit structuré, linéaire, etc. C'est le dossier, c'est le rapport qui est rangé sur une étagère quelque part dans cette super civilisation que nous ne connaissons pas. Sur la planète Shikasta et ses soucis et tout ce qu'on a pu savoir dessus et qui on a envoyé, qui on a perdu, qui on a suivi. Au tout début, il y a l'arrivée d'un émissaire genre qui voit en fait, qui rencontre dans une espèce de dimension interstitielle, on va dire, entre la réalité consensuelle et
les âmes des morts.
Voilà. Mmh. Et il lui demande de revenir, de repartir. C'est des passages très poignants, d'ailleurs. Et là, parler de l'inhumanité de Lessing, il faut être quand même sacrément de mauvaise foi, là aussi. Hein. parce que ça arrache les tripes, ces passages-là.
Plus on avance dans le bouquin, plus on a l'impression que vraiment il y a cette dégénérescence de l'humain, enfin, ou des personnages. Et il y a quand même à la fin des passages très très beaux. Le journal de c'est Rachel. On revient à l'Afrique et quand elle vit avec ses parents, on a une petite cahute. Il y a des passages.
Rachel, donc un journal de jeune fille, donc d'adolescente. Elle vit effectivement avec une famille. Alors ils sont où? Ils sont. C'est jamais. Tout ça n'est pas situé. Catherine parlait tout à l'heure de l'Angleterre, mais on parle pas de l'Angleterre. Hein.
Ils sont en Rhodésie, je crois. Et après, ils sont au Maroc.
Ouais. Avec ses ils sont voilà, voilà. Plutôt au Maroc. Et elle raconte sa famille, comment elle vit. Elle a deux frères et un de ses frères en fait. Et on le comprend petit à petit, pas tout de suite. Ce fameux émissaire Johor de Canopus. C'est-à-dire qu'en fait. Canopus, cette civilisation très avancée, on parle d'aliens, on n'est pas du tout dans la science-fiction, en tout cas dans Shikasta, on va vous décrire une autre civilisation. En fait, on ne parle que de la Terre, et en rajoutant des choses. Mais donc ces émissaires millénaires, pour arriver sur cette planète Shikasta, ils naissent. Et ils découvrent, et ils naissent pas avec leur mémoire, donc ils la retrouvent au fur et à mesure. Donc Rachel décrit son grand frère comme étant très différent, mais finalement, la différence, c'est la grande question de l'adolescence. Et finalement, on comprend qu'il a des discussions avec des gens toute la nuit, qu'il reste éveillé parfois toute la nuit. Et puis, il y a un grand destin qui est en train de se dessiner avec l'autre frère, qui est certainement très doué, mais qui est humain. Et donc, il y a une jalousie. Enfin, voilà, c'est très... Oui, c'est poignant, c'est très humain. Et en même temps, ça décrit ce qui est en train de se passer sur Terre. Enfin, là, pour le coup, c'est ce qui se passe un peu après. Voilà, comment elle grandit, comment elle se situe par rapport à cette famille, et après on est dans un vaste monde qui n'est fait que de réfugiés d'ailleurs, mais bon.
Il y a un côté, alors dans sa préface elle parle de réécrire l'Ancien Testament carrément en SF, mais il y a ce côté aussi du Nouveau Testament, parce que toute la fin c'est un espèce de messie qui naît quoi, et qu'on met avec un twist quoi, avec une façon SF, et en même temps elle parle très peu de religion. Elle en parle pour en dire du mal, mais...
Ça, c'est l'autre sujet. Mais sans doute, on a parlé de dogmatisme et de pas rentrer dans des cadres. La religion en prend pour son grade, puisque c'est la religion qui empêche justement les messages des émissaires. Parce que dès qu'il y a un message, cet émissaire ou d'autres émissaires vont passer dans des endroits et essayer de rattraper quelque chose. Donc, par le conte, parfois, en étant... Ils restent très longtemps dans des endroits et ils envoient des messages très, très en profondeur. Ce n'est pas des discours, ils sont là, ils disent des choses au bon moment, ils attendent le bon moment, ils attendent que quelqu'un écoute pour dire quelque chose qui va les emmener et les faire évoluer. Mais la religion, elle garde ses phrases, vous voyez, elle fiche ça dans le marbre et elle fait tout capoter. Et alors on a toujours des pages contre la religion. Alors dans tous les autres livres de Canopus et... c'est la religion, c'est ce qui fige. Hein, on parlait de l'évolution, c'est ce qui fige.
Oui, d'ailleurs, elle appelle religion tout ce qui fait du mal. Donc le maoïsme, c'est une religion. Le communisme est une religion. Le libéralisme est une religion. Le capitalisme est une religion, avec tout le mal qu'elle en pense. Oui,
parce que ça ne tient que si on y croit, de toute façon, forcément.
Croyance.
Et elle... Alors, elle parle peu de religion, enfin, pour en dire du mal, mais par contre, il y a un grand mysticisme. Il y a vraiment une qualité spirituelle au livre. Alors... Il y a une influence soufie.
Et c'est ce que j'ai lu aussi, mais je sais pas si on en sait.
Xavier, peut-être pour nous.
Apparemment, elle était soufie, une grande. Voilà, ça a beaucoup inspiré certains de ses textes.
Ça expliquerait son sens de l'humour, parce que les soufis ont eu des grands moments drôles, beaucoup moins d'autres, mais ils ont eu aussi le sens de l'humour. Il y a des moments assez drôles, en fait, dans Shikasta, où les malentendus, quand ils se produisent, se passent de façon assez comique. Mais le coup,
ah oui, moi je trouve que c'est un livre très drôle. Oui.
C'est les résultats qui le sont moins, mais
c'est énervant de nous voir, voir les humains se comporter comme ça, mais c'est méchant.
C'est tragique, comique.
Il y a tellement de distance par des émissaires, des rapports d'émissaires qui relisent des rapports d'émissaires.
Mais ça, ce qui me rappelle les grands-mères, justement, dans cette histoire qui, quand même, totalement provoque, hein, déjà pour commencer.
Dont elle regrettait qu'elle ne soit pas autobiographique, d'ailleurs.
Je peux la comprendre. Vu ce qu'elle décrit des jeunes gens en question, je peux comprendre le truc. Mais du coup, dans les grands-mères, par exemple, il y a des situations qui sont d'un cocasse absolu, si on les regarde de l'extérieur. Mais lorsqu'on est dans le texte et dans la tête des gens, on voit à quel point ils se font mal les uns ou les autres, et on ne peut absolument pas parler d'insensibilité. Elle montre les deux côtés les singles. Et c'est toujours comme ça. Elle montre le tragique d'une situation, ce que vivent les gens réellement, et elle montre l'extérieur, à quel point tout ça est quand même dénué de sens ou raté, quoi.
Oui, enfin, pour si on peut résumer, en gros, c'est comme 2001 d'Odyssée de l'espace. Vous avez un monolithe noir qui arrive et qui, tout d'un coup, apprend un singe à utiliser un outil. Là, c'est un peu la même chose. C'est un envoyé d'une planète, d'un système plus développé qui arrive sur une planète nommée Shikasta, qui est pleine de singes et qui va les éduquer. Sauf qu'ils prennent quand même une forme un peu plus discrète qu'un monolithe de 800 000 km². Et il envoie des rapports à ses supérieurs pour décrire à quel point, ben, sur Shikasta, ils avaient l'impression que ça se passait bien. En fait, ça se passe mal et très mal et de plus en plus mal. Et il écrit donc très pince sans rire au sujet des Shikastiens, c'est-à-dire des humains, leur fonction intellectuelle, qui pour des raisons indépendantes de leur volonté n'avait jamais été très remarquable, dégénérait rapidement sous l'effet de l'usage qu'ils en faisaient. Donc moi, je trouve qu'il y a une espèce d'humour pince sans rire de...
C'est au milieu d'un rapport, ouais, c'est...
Oui, voilà, de fonctionnaire intergalactique qui est en train d'écrire à ses supérieurs que vraiment ça part complètement en sucette et qu'il faudrait intervenir.
Il y a aussi un truc qui est, je trouve, très prégnant dans le livre, c'est le poids de la société sur l'individu. On retrouve ça exprimé le plus clairement possible dans le journal de Rachel à la fin, où elle, anglaise avec sa famille, côtoie des autochtones, donc des Marocains qui habitent avec elle, qu'elle adore, et elle est triste pour eux du poids de la société et du fait qu'ils sont comment dire,
conditionnés, enfin pas déterminés, mais
voilà, déterminés, ouais. et qu'ils acceptent leur sort, enfin ça ne pose même pas de question. Et ça, c'est pour moi, c'est une des forces du bouquin, c'est d'arriver à mêler les rapports extraterrestres, des problématiques global sur des millénaires et le journal d'une gamine, enfin l'infiniment grand à l'infiniment petit. J'ai rarement lu de bouquin qui arrive à faire ça, quoi. C'est une des forces du, même en science-fiction, voilà.
Et la science-fiction permet ça.
Y a les une scène... outils nécessaires à.
Ouais. Et il y a une... donc on arrive à une scène absolument incroyable qui est le procès de la race blanche. Donc, enfin voilà, je vais pas vous la décrire, mais c'est quand même c'est une façon de passer à autre chose, et le procès de la race blanche, c'est tous les représentants des peuples opprimés viennent et parlent pendant des heures dans c'est sur une île en Grèce, hein, c'est ça, à la lueur des flambeaux, et c'est rapporté par un émissaire chinois qui, eux, semblent être les méchants, c'est-à-dire qu'ils auraient apparemment, ils les ont assoiffés, empêchés de manger, et ils ont en quelque sorte la main mise sur l'Europe notamment, mais également l'Afrique, je sais plus. Et donc le chinois rapporte ça à partir d'autres rapports d'émissaires chinois. Donc il y a encore cet effet là permet de l'humour, parce que cette distance permet de voir l'effet déformant, et on voit tous les peuples qui défilent pour accuser, et il y a un seul homme qui est en fait un émissaire d'ailleurs de Canopus, qui représente la race blanche, puisqu'ils sont humains, enfin ils naissent humains, un vieil homme qui est là tout seul, encadré par un jeune noir et un jeune blanc, c'est ça, et il dit rien pendant tout le procès, tout le monde défile. Et à un moment, il y a quand même une indienne qui commence à expliquer qu'ils n'avaient pas besoin des occidentaux et ils n'avaient pas besoin des blancs pour se faire du mal. Hein, elle parle des castes et des intouchables. Et je ne vous raconte pas la fin du procès, parce qu'il y a une conclusion au procès, voilà, assez drôle, finalement. Est-ce que tu vas le lire, Xavier, du coup?
Ah, mais les blancs s'en prennent plein la face, ça, c'est clair.
C'est vrai. La civilisation occidentale... Est-ce que tu vas publier la suite, Mathias?
Oui, bien sûr. Donc la suite...
Tu n'as pas été traduit, non?
Alors, voilà, la suite... En fait, Shikasta était déjà sorti au Seuil. La suite également, ça s'appelle, déjà le titre, Les mariages entre les zones 3, 4 et 5. Ça se fait rêver, hein, ça fait très factuel. Et la suite, dans la forme, n'a absolument rien à voir. Il n'y a pas d'émissaire, vraiment. C'est l'histoire homme-femme. C'est-à-dire qu'il y a... une femme qui est quelque sorte le leader d'une zone. On comprend qu'ils sont dans une zone, donc on suppose que c'est Shikasta, évidemment. Et dans cette zone, ils ne peuvent pas passer, ils manquent d'air, donc ils vivent dans un pays qui est délimité par un changement d'air. Donc ils ne peuvent pas franchir les frontières, ils sont très heureux comme ça. Alors, ils semblent communiquer avec les animaux. Là, il y a quand même une description d'utopie, hein, proximité avec les animaux, avec la nature. Il y a donc ce côté certainement très fort spirituellement.
Mais à un moment, les tambours battent dans sa tête, hein, et ça faisait des générations que ça n'était pas arrivé. On lui dit qu'elle doit aller se marier avec le chef de la zone d'à côté, qui est évidemment une société totalement masculine. Lui, c'est un roi guerrier, il ne connaît que ça, il prend les femmes de force. Tout le monde est dans l'armée, ils n'ont rien construit à côté. Voilà. Et ils doivent tous les deux s'entendre. Ils se détestent, ils s'aiment et ils n'arrivent pas à communiquer. C'est du conte et tout le livre est là-dessus. En fait. Quasiment tout le livre.
J'ai une question.
Et donc il y en a trois autres, mais je ne vais pas vous les raconter.
Okay. On les achètera. Une question que je me suis posée en m'apercevant qu'il n'y avait que la moitié de l'œuvre de Lessing qui est traduite en France. Elle a écrit 60 romans, il n'y en a que 30.
Ah, la moitié ?
Ouais.
Et on a du boulot.
Ben, pourquoi, à votre avis ?
Parce que c'est une femme.
Je dis rien parce que dans ces cas, si on dit quelque chose, on est accusé d'être...
Si on se fatigue à être féministe alors qu'on pourrait aller à la pêche le dimanche, c'est bien qu'il y a un souci et ça fait partie de ces innombrables soucis. Oui, bien sûr.
Prix Nobel de littérature. Ah, moi, je savais que cette série... Je me suis dit que c'était encore la science-fiction, en fait, que c'était pas Doris Lessing. Je me suis encore dit, bah voilà, c'est la science-fiction. On a dit que c'était de la science-fiction. Alors surtout, faut pas publier. Mais y en a encore d'autres. Y en a plein d'autres. Voilà, je sais pas. C'est pas la science-fiction qui est accusée. Voilà. Il y a eu d'autres livres de science-fiction, en réalité, dont on n'a pas dit le nom.
Elle cumule, peut-être.
Oui, c'est ça, double défaut. Il y a eu des livres qui sont sortis et qui sont encore disponibles, qui sont, on va dire, du post-apo, quasiment, comme on dit. C'est-à-dire, il y a Mara et Dan, et le général Dan, qui sont disponibles. Alors, personne n'a parlé de science-fiction, mais vous voyez très bien, sur la quatrième de couverture, que bah, c'est dans un continent qui s'appelle l'Ifrique, pas l'Afrique, et qu'il y a une sécheresse total, et que des jeunes, encore des adolescents qui vont ensuite grandir, doivent fuir vers le nord et chercher le nord et comment ils vont survivre et comment ils vont se transformer, le poids des sociétés, enfin on retrouve ces thèmes-là. Et Mémoire d'une survivante, c'est de la SF aussi, mais on n'explique jamais comment ça fonctionne, mais c'est l'apocalypse est là, on n'explique pas pourquoi, comment, et il n'y a plus que quelques personnes qui doivent survivre, dont une adolescente et une vieille dame. Et comment les liens et comment les gens réagissent, comment ils vivent, comment ils s'adaptent, comment ils évoluent, c'est encore ce sujet de la transformation. Ben voilà, je vous parle de certains livres.
Est-ce qu'il y a des questions dans le public, peut-être ?
J'aimerais juste dire un truc, pardon. Là, excuse-moi, mais ça vient de me traverser l'esprit, et je laisserai la parole au public juste après. Le coût des géants, ça me trotte dans la tête, là, et avec le gain, etc. On est presque dans l'histoire secrète, type 19e siècle, etc. Ces envoyés qui arrivent façon Bodhisattva, dont le message est dévoyé, etc. Le gain a peut-être buté aussi quand même dessus, parce que ça avait été des thématiques...
C'est des clichés,
ouais. C'est des thématiques qui sont... Alors, il y a un côté que je connais, que je comprends, de l'écrivain de science-fiction qui voit débouler l'écrivain de littérature générale multiprimé, qui s'empare des codes que lui, l'écrivain de science-fiction, utilise depuis toujours et que de toute façon, on lui crache à la gueule depuis... toujours aussi à cause de ça. Alors, on peut peut-être soupçonner vaguement Ursula d'avoir eu cet agacement qu'il m'arrive de ressentir, j'avoue, de temps en temps à l'égard de certains de nos collègues. Voilà, le terrible Michou, par exemple, me fait cet effet-là. Je parle de Michel Houellebecq. Mais il est excellent, mais il y a des moments où il m'énerve quand même.
Ah mais Michel Houellebecq, il l'a dit, hein, moi je fais de la science-fiction, mais je ne le dis pas parce que je pense à mes collègues auteurs de science-fiction qui sont littérairement aussi doués que moi, mais que le fait d'être étiqueté auteur de science-fiction, alors la son phrase exacte c'est « Les-vous à moisir dans une obscurité définitive ?» Enfin bref, il a tout de suite, il a un esprit très marketing, Houellebecq, c'est fait partie de ses qualités. Et moi j'ai une question, alors justement... à vous et à tout le monde, parce que Doris Lessing effectivement elle fait beaucoup dans le fix-up, c'est-à-dire on a un bout de nouvelle, un petit roman et puis une interview et puis une note de bas de page, etc. Et je me suis dit, en tout cas, bon, pas dans Chicasta mais dans le Carnet d'or qui précède, je me suis dit est-ce que ça serait pas elle qui aurait inventé, au moins mis au point, cette forme? Et après je me suis rappelé que non, elle avait un prédécesseur qui est Lovecraft. Et là donc je pose la question, est-ce que quelqu'un connaîtrez quelqu'un, un auteur qui serait qui serait encore d'avant Lovecraft, qui aurait mis au point cette forme
Tristram Shandy, 18e siècle.
Ah, oui. Tristram Shandy, d'accord.
Mais oui, il met 200 pages à naître, même pas. Oui, plus que
des,
ça.
Avec des aplats noirs, non, ouais. C'est incroyable.
Oui, d'accord. Très bien.
À lire dans l'édition Total, c'est-à-dire Tristram a ressorti parce que ça avait, c'était déjà fantastique Tristram Shandy, mais les éditions Tristram ont ressorti l'ensemble du livre où on voit effectivement tout ce qui avait été enlevé. Ouais.
Il y a un petit quelque chose comme ça.
Des digressions sans fin, c'est très drôle.
Il y a un truc comme ça dans le manuscrit tombé à Saragosse, mais c'est pas tout à fait
non
ça.
Parce que dans le manuscrit trouvé à Saragosse, t'as l'histoire dans l'histoire dans l'histoire dans l'histoire dans l'histoire, et puis on repart dans l'autre sens pour revenir. Là. C'est des poupées russes le manuscrit.
Oui, c'est pas un fix-up.
On est plus dans dans les mille et une nuits avec le manuscrit.
Exact.
Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur Michel Houellebecq?
Le terrible Michou, j'ai dit. Je trouve que ça lui va très bien. C'est un surnom que lui a donné un copain.
Je ne pense pas qu'il se serait vraiment entendu avec Doris Lessing. Hein, vraiment.
C'est marrant qu'on n'ait pas parlé de Margaret Atwood. Oui. C'est fort quand même. Hein.
Et pourquoi? Parce que moi, maintenant, je vais découvrir. J'ai acheté le premier, je ne l'ai pas encore lu. Margaret Atwood, vas-y, parle-en un peu peut-être.
Non, c'était pour dire que c'est aussi une des grandes figures, justement, entre la littérature générale et la science-fiction, se réclamant des deux, grande figure féministe, une intelligence et un style remarquable. Il faut lire La Servante écarlate. C'est magnifique.
Une question, quelqu'un ? Ça marche pas.
Vous m'entendez ?
Oui.
Juste une question sur Doris Lessing. Vous n'avez pas parlé de son roman Le cinquième enfant.
Moi, je ne l'ai pas lu.
Ah ben moi non plus. Moi non plus, madame.
Personne n'a lu.
J'ai mal fait mon travail. Je suis vraiment désolée. Je n'ai pas lu 33
Alors,
romans.
Donc, allez-y. Moi, j'ai connu Doris Lessing sur Le cinquième enfant. Et on voit dans une famille exemplaire de la bourgeoisie anglaise. Un enfant qui naît et qui n'est pas handicapé, mais que les parents pensent handicapé, qui à la fin va se révéler être un homme bizarre. Ils pensent que c'est une malédiction envoyée par les grands anciens, que c'est une race préhistorique, donc ils auraient eu des gènes de cette race. Et j'ai trouvé, et ils opposent ça à un enfant terriblement affectueux qui est un enfant trisomique. Et j'ai trouvé que ce roman m'a énormément marqué sur Doris Lessing parce que bon. Au départ, ça, c'est un roman sociologique et on déboule sur la SF et sur la théorie des grands anciens. Voilà, c'est tout ce que D'accord. je voulais dire.
Merci.
Alors, tu parlais de Margaret Atwood, là. Et moi, il y en a une auquel je pense depuis que Mathias m'a filé du travail, c'est à savoir relire Doris. C'était Karen Blixen. Les parcours sont assez... ces deux femmes qui se retrouvent en Afrique, alors qu'on a déraciné, alors Karen, elle est déracinée plus tard. Mais il y a des moments où je retrouve l'une chez l'autre. C'est revendiqué ? Ah, d'accord. Ça, je l'ignorais. C'est bien. Ça.
D'autres questions ? Ou un autre conseil de livre, peut-être, de Doris aussi ? Non ? Bon, mais dans ce cas, je vais remercier les invités et le public d'être venu. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.